oscillación.
Pour la transcription, c'est la séance plénière du GAC du dimanche à 2h44 de l'après-midi.
Okay, let's begin.
C'est Madame la Présidente qui prend la parole. Nous allons commencer. C'est notre séance de l'après-midi. Cet après-midi, il y a le prisonnier Del Khan, Colpritz à ma droite, et à sa droite, il y a Carl Linz, qui sont ici parmi nous pour parler de la proposition récemment publiée concernant la priorisation des candidatures. Il y aura une présentation, il y a des diapos que nous allons voir. Et il y a un document que vous avez assurément reçu en version imprimée avec le reste du matériel où l'on a toutes les précisions concernant cette notion. C'est ce qui a été publié sur Internet par ICANN il y a quelques jours. Nous avons reçu un rapport. Nos collègues du personnel de l'ICANN ont le temps jusqu'à 25 jusqu'à 3h25. La présentation sera assez courte, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement une présentation sur laquelle il faille donner le conseil du GAC. C'est plutôt une séance informative pour que l'on réfléchisse aux différentes questions et les membres du GAC peuvent faire des commentaires puisque cela a été publié pour le commentaire public sur la base de l'intérêt que cela pourrait susciter pour que vous fassiez des commentaires. Je cède donc la parole à Kurt pour qu'il nous parle de la présentation. C'est Colpritz qui parle. Merci beaucoup, Heather. Merci de m'avoir accueilli dans votre réunion. Voilà donc la présentation que nous allons faire pour les assistants généraux d'ICANN dans la séance de mercredi. C'est une bonne occasion pour que je puisse faire une répétition et je vous demande de m'excuser au cas où il y aurait des choses qui n'iraient pas trop bien. Ginny, ne vous effrayez pas de la complexité. Nous avons examiné la façon de prioriser les candidatures des GTLD. Il y en a 1923. Et nous nous occupons de ce processus qui est appelé celui de l'évaluation initiale, qui concerne justement la partie technique. Il y a des enregistrements, des registres, et il y a d'autres questions concernant l'évaluation dont nous nous sommes occupés sur la question géographique. Une fois complétée cette étape, nous aurons besoin de déterminer, de hiérarchiser la priorité, puis ensuite les ramener à la zone racine. Rappelez-vous qu'il faut que nous ne déléguions que plus de 1000 GTLD par an à la zone racine. Et il faut faire quelque chose de bon avant le 1er janvier. Donc, nous avons besoin de mettre un peu d'ordre là-dedans. Ceux qui ont déjà considéré un peu cela savent que nous avons fait des essais, des tentatives. On a déjà épuisé la discussion publique et on a développé ce modèle pour parvenir à ce que nous voulons. Ce logigramme que vous voyez devant vous concerne la totalité du processus d'évaluation et de délégation des nouveaux GTLD. Je vous conduirai donc tout le long de ce processus. La partie principale, ou le nouveau développement, concerne la hiérarchisation des priorités. La prochaine, donc. Nous parlons d'une méthodologie pour la hiérarchisation des priorités qui se fait partir à Josor et nous l'appliquons suivant la législation des États-Unis parce que l'ICANN siège aux États-Unis et c'est là que le tirage au sort doit se faire. Chaque candidature aura un numéro pour le tirage au sort et c'est ce qui va déterminer la priorité pour le reste du processus. Le tirage au sort se fera en décembre et cela requiert légalement un ticket papier qui doit être vendu à une certaine valeur. Nous pensons que cela va être aux alentours des $100. Ce ticket doit être acheté personnellement. Si un candidat ne peut pas aller jusqu'aux États-Unis, il peut nommer un représentant ou ICANN en nommera un pour payer pour ce, et il paiera pour ce service. Dans cette proposition, le nombre de tirages au sort peut être échangé et c'est pour éviter qu'il y ait un marqué. Si un candidat ne veut pas participer, on peut le mettre à la fin de la liste de priorités. Maintenant que tous ont des listes de priorités, ce qui se passe au prochain pas, c'est que nous nous retrouvons à une période d'objection. La période pour la présentation des périodes formelles se terminera le 13 mars, c'est-à-dire 2 mois après la date publiée à l'heure actuelle par ICANN. Nous avons publié jusqu'ici que c'était jusqu'au 12 janvier et nous l'avons fait par suite du nombre des candidatures qui avaient été présentées. Les raisons du choix de cette date se rapportent à une discussion plus longue que nous aurons plus tard, mais je voudrais que vous compreniez que la date est celle que je viens de vous dire. L'évaluation initiale sera publiée et au lieu de tout publier en même temps, nous allons le faire par un numéro d'ordre de priorité et nous allons commencer à publier cela après la période de diffusion. Si vous prenez le temps, entre la période de fin se terminant en mars, entre la fin de mars et notre période actuelle, notre calendrier actuel sera diffusé pour le mois de juin. Il y aura à peu près 150 par semaine qui seront publiés ou diffusés. Voilà pourquoi il y aura cet ordre de priorité. Il y en aura d'abord 150 parce qu'il faut réorganiser l'ordre de l'évaluation qui sera différent, mais cela se fera peu à peu. Cette proposition permet aux IDEN d'aller en premier lieu et cela dans l'intérêt public et tenant compte de la diversité publique encouragée par les IDEN. Les premiers justement à être publiés sont justement les IDEN. Si une candidature est acceptée à l'évaluation initiale, elle peut passer à l'étape suivante. Si elle échoue dans la deuxième étape d'évaluation, elle sera retenue jusqu'à ce qu'elle soit adoptée. J'en parlerai après un peu plus, mais nous allons avoir des tirages au sort hebdomadaires que nous allons présenter mensuellement par ordre de priorité. Après avoir présenté les résultats de l'évaluation, nous allons voir s'il y a des objections ou s'il y a une chaîne de caractères qui soit enfin en contentieux, s'il y a une chaîne qui n'a pas réussi dans la période initiale d'évaluation. Donc, les candidatures qui réussissent dans la première étape initiale d'évaluation vont passer, ou s'il n'y a pas de contentieux, elles vont être à la prochaine étape. S'il y a un contentieux, une objection, elles seront stoppées et il faudra résoudre ce contentieux ou cette objection. Pendant les semaines où cela dure, la candidature sera retenue à cette étape et lorsque l'objection sera précisée, s'il y a eu un processus d'objection, Il va falloir revenir en arrière de quelques semaines. Une fois acceptée une demande de candidature, une candidature qu'elle a été adoptée pour l'étape initiale, on leur demandera s'ils acceptent le contrat standard, c'est-à-dire les registres doivent accepter ce contrat. Ceux qui ne l'acceptent pas rentreront dans la liste de négociation et seront traités dans l'ordre de tirage au sort. Mais les candidatures acceptant le contrat initial vont passer à la prochaine étape. À cette étape du jeu, on ne exécute ni on ne signe de contrat, mais on reçoit un signal du candidat en ce sens qu'ils sont d'accord sur le format ou sur le modèle de l'accord. Les candidats peuvent aller ensuite dans les tests de prédélégation. Et ils vont penser à chacun des lots pour voir s'ils peuvent faire rendez-vous pour une évaluation des prédélégations. Nous aurons 4 rendez-vous par jour ou 20 par semaine. Nous n'allons pas considérer, bien sûr, les week-ends. Et ce sera une façon de mesurer ou d'évaluer un millier par an. Voilà donc la première étape, en ce sens que les candidatures réussissant une évaluation et acceptent un accord standard, ils auront un numéro de priorité pour la prédélégation. Ensuite, on peut sélectionner un rendez-vous pour le test de prédélégation. S'ils sont acceptés, ils passent à la prochaine étape. Autrement, ils seront appelés un autre jour. Si vous pensez au fonctionnement de ceci, vous voyez les 19 premières candidatures que nous voyons ici, elles sont dans cet ordre de priorité. Donc, la chaîne de caractère numéro 1 peut choisir la première étape disponible pour un essai et ainsi de suite. Voilà, vous voyez que les chaînes de caractère, les premières chaînes de caractère sont dans la première et la chaîne de caractère numéro 5 peut décider qu'elle n'est pas prête pour le test de prédélégation pendant la première semaine et c'est pour cela qu'il peut choisir une autre date. C'est à ce moment-là que le candidat peut décider de la capacité qu'il a, s'il peut attendre ou pas. Donc, au fur et à mesure que les candidatures sont présentées dans l'ordre du tirage au sort, elles peuvent venir le jour où elles auront choisi. C'est une espèce de réservation. Je voudrais dire quelques mots à propos de la manière dont ce tirage au sort, hebdomadaire, ou cette allocation de candidature hebdomadaire va se faire. Une fois que nous aurons les résultats de l'évaluation initiale, nous allons publier l'un des premiers résultats sous forme de priorité et nous allons décider si nous voulons ou pas accepter l'accord de base. Pendant la deuxième semaine, le second groupe d'évaluation de candidature sont présentés. Ensuite, on fait la prédélégation et choisit les premiers tests. Ensuite, dans la troisième semaine, il y a un autre groupe d'évaluation initiale qui seront publiés et c'est là que le contractant décide de négocier. C'est là qu'on peut faire les tests, les essais de prédélégation. Vous pouvez voir que tout cela peut se faire chaque vendredi à 5 heures de l'après-midi. Et il peut y avoir des zones pré-désignées. C'est une sorte de livraison ou publication hebdomadaire tout le long du processus. Et au fur et à mesure que nous voyons cela, nous aurons un taux d'à peu près 20 par semaine. Voilà la façon dont cela va se dérouler. Nous sommes à nouveau au test de prédélégation. Les candidatures choisissent un rendez-vous et si elles passent le test de prédélégation, elles vont passer à l'étape suivante. Ensuite, nous allons voir cette partie qui va se dérouler après la réunion de Pékin. À un moment donné, après la réunion de Pékin, l'ICANN va signer des contrats qui seront acceptés par les candidats. ICANN ne signera que 20 contrats par semaine. Donc, S'il y a une accumulation de candidatures, pour le moment de Beijing, on pourra traiter encore d'autres candidatures. Donc, nous allons signer seulement 20 contrats par semaine. Après, ces candidatures seront traitées par Iliana, qui s'occupera du premier arrivant, même si ce n'est pas toujours le cas. Il faut se rappeler qu'il s'agit de 20 candidatures par semaine et qu'il y aura une prédélégation qui se fera chaque semaine et que cette délégation se fera à un taux de 80-85 par mois pour parvenir à 1000 TLD par an que nous nous sommes fixés comme objectif. Rappelez-vous le premier diapo où il y avait quelques guides qui apparaissaient à gauche. Ces principes vont permettre au programme d'avancer aussi vite que possible, mais à un rythme contrôlé. La période d'objection sera close 9 mois après la date de délégation. Je l'ai mal fait en anglais, je vais relire. La période d'objection va être close 9 mois après la date de délégation, c'est-à-dire le 13 mars. Nous allons d'abord publier les IDN pour souligner l'engagement envers l'intérêt public mondial et international. La signature se fera après la réunion de Beijing et nous allons limiter cela à 1000 par an pour que la délégation soit stable et qu'elle se fasse de façon sûre. Je voudrais savoir si cela a été facile à comprendre. Comme il faut que je refasse cette présentation, je voudrais savoir s'il faut que j'améliore quelques parties de la présentation. On ira de nouveau à la deuxième image. C'est Heather qui prend la parole. Je vois que l'Égypte demande la parole. C'est l'Égypte qui prend la parole. Merci, Heather et Kurt, de la présentation. En premier lieu, je vous demande de m'excuser si je me suis un peu perdue dans l'explication, mais vous avez dit que les IDN vont avoir en quelque sorte une certaine priorité. Je ne suis pas sûre de la manière dont cela sera mis en œuvre. C'est-à-dire, s'il y a un tirage au sort et chacun a son numéro, comment cela se fait-il que les IDN auront la priorité? Et j'ai encore deux autres commentaires. Je ne sais pas si vous voulez répondre à chaque question à tour de rôle. C'est Kurt qui prend la parole. Je veux signaler que cela sera publié pendant 30 jours pour recevoir des commentaires publics. Pendant ces 30 jours, nous avons une procédure pour modifier le guide du candidat pour cette période de 30 jours. C'est ce que nous faisons en ce moment. Mais les IDN vont avoir un numéro de priorité qui a été alloué de la même façon. Les IDN vont être là. C'est 116 IDN qu'on va tirer d'un bol et le reste des candidatures vont apparaître dans un autre bol. Donc, les demandes de candidature d'IDN vont sortir dans un ordre de priorité, ces 116 IDN. Imaginez qu'il y a beaucoup de manières pour assigner ou allouer des priorités d'IDN. Cela peut être 2 sur 1. Donc, les IDN, c'est les premiers mois. Ou bien la proposition, c'est que l'on voit d'abord les IDN. C'est l'Égypte qui reprend la parole. Le deuxième point, excusez-moi de mon ignorance, mais où voit-on apparaître les candidats qui se concurrencent pour la même chaîne de caractères? Est-ce que cette différence apparaît avant le tirage au sort? Est-ce qu'on va leur donner différentes priorités? C'est Kurt qui prend la parole. Le tirage au sort, non, ce n'est pas une question d'ignorance, je veux le dire. Hein. Ceci peut se produire à n'importe quel moment. La remise en cause peut se produire à tout moment. Les partis peuvent décider de ceci demain ou dans quelques mois. Mais la façon de travailler dans ce logigramme est la suivante. Les partis auront leur numéro de priorité sans que l'on tienne compte du fait qu'il y ait des remises en question ou des révocations ou pas. ensuite, on fera la publication en respectant le numéro d'assignation ou d'allocation des priorités. Mais on ne pourra pas accepter l'accord standard jusqu'au moment où cette concurrence entre eux aura été résolue ou cette remise en cause. S'il y a une objection, il en va de même. Il va falloir peut-être traverser le système de résolution de différends avant d'obtenir un numéro. C'est l'Égypte qui dit « Je pose la dernière question, mes excuses pour des commentaires aussi longs ». Mais si le document dit que les frais de mobilité, les frais de déplacement peuvent être compensés par la détermination, la nomination des représentants, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu cela ? C'est Code qui parle. Lorsqu'on fait le tirage au sort, le ticket doit être reçu personnellement à Washington, D.C. ou en Californie, et il faut que ça se fasse aux États-Unis. Il faut le faire personnellement. Mais le candidat peut ne pas être là. Il faut désigner un représentant qui le fasse. Et si le candidat ne peut pas le faire, c'est ICANN qui va le faire. Elle désignera un tiers indépendant. Et à ce moment-là, ICANN peut, disons, absorber ses coûts sans qu'il y ait des paiements à faire de la part du candidat pour éviter ce problème à des gens qui seraient dans des points distants de la planète. La Suède, l'Italie, la Grèce, l'Argentine, le Royaume-Uni, la Norvège et la Commission de l'Union africaine. Je vais essayer d'être brève. C'est la Suède qui demande parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Ma question se rapporte au rythme parce que toi, tu parles de 1000 et quelques candidatures, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas le nombre en soi, mais 1001, cela ne fonctionnera pas. Cela se rapporte plutôt au rythme. Donc l'évaluation se rapporte et liée au rythme. Cela signifie que 1000, ça peut être un peu trop ou un peu moins ou un peu plus. Je ne peux pas voir comment on mesure cela dans la présentation. Je ne sais pas si nous pouvons voir comment se passe l'évaluation et le test de prédélégation, le système de prédélégation. Cela se rapporte plutôt au rythme qu'à la quantité. C'est Code qui répond. Oui, c'est une bonne question que l'on vient de me signaler. Le test de prédélégation consistera à s'occuper de 20 par semaine de candidatures. C'est le taux que nous pouvons gérer, la vitesse que nous pouvons avoir, hein, le rythme. Ceci pour que les gens de ESSAC puissent vérifier avec la communauté technique. Mais nous savons que c'est l'approche la plus conservatrice. L'Italie maintenant, c'est l'Italie qui prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Si ce schéma est approuvé, ce sera vraiment très crédible, une mise en œuvre, un plan de mise en œuvre très crédible pour les nouveaux GTLD. Je peux considérer cela comme le meilleur effort pour signer les quatre contrats par jour. C'est la limite de la crédibilité, disons. Ma question est la suivante. Si ceci est approuvé de cette façon ou si cela est modifié, quelle est l'intervention du conseil d'administration? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait de cette façon sans que le conseil d'administration adopte? Parce que les contrats, c'est quelque chose de vraiment très important au point de vue de la responsabilité. Et alors, cette idée, c'est l'autre qui sont payés à ce moment, vendus à ce moment. Lorsque l'on verra apparaître le nouveau enregistrement de la base de données de l'IANA, et parfois il y a un retard dans l'activation de nouveaux registres, est-ce que vous avez estimé, est-ce que vous avez prévu quel peut être le retard? Voilà la question, fondamentale que j'ai à poser pour comprendre un peu comment fonctionne le plan qui est derrière cela. C'est Côte qui prend la parole. Merci beaucoup. Nous pouvons en parler avec un peu plus de détails, mais je vais le dire très rapidement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à parler. J'ai un tampon, je peux signer les contrats sans problème. Non, je parle sérieusement. L'idée est la suivante. Les candidats qui auront été d'accord sur le modèle de contrat qui est publié, s'ils sont d'accord là-dessus, il n'y aura pas de négociation avec ces candidats. Nous allons signer les contrats rapidement. S'ils ne sont pas d'accord avec ce modèle, avec ce contrat pro forma, ils devront commencer l'attente pour la négociation et cela prendra plus longtemps. Ce type de contrat ne seront pas signés au rythme de 4 par semaine. Le rôle du conseil est un rôle de supervision. Si le conseil d'administration va demander au GAC de lui fournir conseil, ils vont regarder la candidature exhaustivement. Il y aura un rapport sur le traitement de toutes les candidatures pour qu'ils sachent que chacune des candidatures est passée par toutes les étapes du processus qu'elle devait traverser pour que l'on sache ce qui se passe. Il en aura une supervision de tout le processus. Et enfin, le conseil d'administration va écouter les commentaires publics et elle va décider d'autre chose. Elle peut décider de prendre de n'importe quelle candidature en particulier et analyser de façon individuelle. En ce qui concerne Yana, nos partenaires de VeriSign et de NTIA ont travaillé ensemble dans la chaîne de délégation pour créer un processus et sont déjà prêts à certifier qu'ils peuvent respecter la vitesse, les taux de délégation dont on parle. Ils ont déjà travaillé ensemble et ils ont travaillé avec la communauté aussi et ils peuvent respecter ce taux de cette vitesse. Il y a beaucoup de questions qui apparaissent. Cela ne signifie pas que le travail ne soit pas complexe. C'est Heather qui parle. Bon, maintenant, c'est la Grèce qui demande la parole. C'est la Grèce qui prend la parole. Merci. J'ai 3 ou 4 commentaires. Le premier, pendant la période qui apparaît sur l'écran, on ne voit pas la contribution du GAC. On a dit que cela peut-être serait vu à la fin de la période d'objection, mais il me semble qu'il faudrait que l'on ait une date limite pour le conseil du GAC pour voir des négociations bilatérales. Et cela va avoir une conséquence en termes temporels sur le travail et sur l'évaluation finale. Mon deuxième commentaire, l'Égypte avait posé une question dont je n'ai pas trop compris la réponse. Qu'est-ce qui se passe si les candidats qui ont demandé la même chaîne de caractères, comment ça se passe entre eux? Je crois que cela va être évalué de façon comparative, si j'ai bien compris, et que ce sera peut-être le meilleur qui recevra la chaîne de caractères. Et s'il s'agit de certains qui ont le même niveau par rapport aux critères à respecter au syndicat, c'est cela alors, pour voir qui est-ce qui a demandé le premier. C'est le premier qui a demandé, celui qui recevra la chaîne de caractères au cas où les deux candidats seraient sur un pied d'égalité, parce que dans le processus, donc, je crois qu'on ne peut pas résoudre le problème de cette manière. Le troisième commentaire concerne la priorité des IDN. D'après ce que j'ai compris, il y a un PDP ou quelque chose de la sorte qui est réalisé en ce moment sur les IDN qui sont les premiers à être traités. Je suis sûre qu'on ne peut pas faire d'attribution des priorités jusqu'au moment où l'on aura fini. L'on saura comment ça fonctionne, mais selon l'expérience que nous avons acquise pour notre demande d'une IDN, nous nous opposons au fait de donner la priorité aux IDN, à moins d'avoir résolu les aspects de base des IDN. Voilà donc la position par rapport à la Grèce. Voilà mes commentaires. C'est Côte qui parle. Merci de vos commentaires. L'intention du processus est la suivante. Nous voulons avoir tout l'apport du GAC et vous avez posé une question très importante. Nous espérons que les alertes précoces du GAC apparaîtront quelques mois avant la publication des évaluations initiales. Mais si je réfléchis à ce que vous venez de dire, les alertes précoces du GAC peuvent donner lieu au fait que l'on doive corriger certaines candidatures. Cette action de correction ou d'amendement ne serait peut-être pas complète au moment où l'on publie les résultats de l'évaluation initiale. C'est donc là qu'il faut penser que s'il y a une candidature et une alerte précoce du GAC, il faut voir comment cela est, disons, introduit dans le processus. Et il faut se demander, ou il faut avoir du temps pour que l'on puisse, pour que le candidat puisse modifier cela, pour que l'on soit d'accord avec l'alerte précoce du GAC. Nous devons ajouter quelque chose. C'est la Grèce qui ajoute cela. C'est la Grèce qui dit, c'est après Beijing, oui, Kurt dit, c'est par rapport aux alertes précoces. Donc, cela va se faire après Beijing. Je crois que nous devons parfaire ce modèle. Et c'est parce que l'on dit Beijing, on ne dit pas le conseil du GAC. Nous devons travailler avec vous pour comprendre quels sont les délais et voir à quel moment du processus nous faisons rentrer ceci. C'est un débat sur lequel nous devons nous étendre et écouter d'autres voix. Par rapport à ces objections, lorsque deux candidats demandent de la même chaîne de caractères, il n'y aura pas de contrat signé jusqu'au moment où ce problème sera résolu. Cette remise en question ou contentieux sur la chaîne. Je comprends ce que vous avez mentionné sur les IDN et je comprends aussi quelle est notre responsabilité avec l'ICAN envers la Grèce pour résoudre ça. Nous avons parlé avec la CCNSO pour mettre en œuvre une solution aussi vite que possible.
Elle prend la parole. Merci. C'est l'Argentine qui va parler maintenant. L'Argentine prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, cœur de la présentation. L'une des questions a été posée par notre collègue de la Grèce sur quelle est la partie du processus où arrivent les alertes précoces. Mais bon, j'ai déjà entendu la réponse. Merci. On a aussi mentionné la question des noms géographiques qui vont avoir une priorité dans l'évaluation. Que se passe-t-il avec les noms géographiques présentés comme marques et comme noms géographiques? Ils vont être analysés lors de la première étape d'évaluation ou bien ils vont apparaître comme marques dans une autre partie de l'évaluation? Voilà ma première question. Puis, vous avez dit que les objections peuvent être présentées jusqu'au 13 mars. Je pose la question suivante. Si un pays a un conflit avec une chaîne de caractères qui a le nom d'une région qui a été présentée comme marque, et il y a une alerte précoce, j'espère que on puisse arriver à une solution. Sinon, le GAC va donner son avis. Ce pays-là, peut-il présenter une objection ou pas? Voilà ma deuxième question. Kurt prend la parole. Cette proposition a alors la priorité assignée aux IDN. Les noms géographiques ou pas géographiques étant des IDN vont aller en premier lieu. Si c'est en code ASCII ou en code latin, ils vont avec le reste des candidatures. Donc, lorsque l'on fait un commentaire sur cette proposition, les IDN iront d'abord et puis tout le reste des candidatures iront dans un autre groupe, toutes ensemble. Pour ce qui est de la manière d'aborder les objections à un tel état spécifique, c'est un choix fait par chacune des parties. C'est difficile de ne pas dire que l'on doit utiliser tous les outils disponibles. Tous les outils disponibles à disposition, mais il y a beaucoup d'outils à utiliser, l'alerte précoce, l'avis du GAC, les processus d'objection. Alors, il y a différentes routes, disons, pour arriver au même objectif. Heather prend la parole. Merci, l'Argentine. Kurt, on a quelques minutes. On va continuer avec l'ordre de la liste. Et puis, alors, on va remercier Kurt de sa présentation. Il y a donc le Royaume-Uni, la Norvège, le Brésil et l'Allemagne et l'Espagne. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci, Kurt. Merci, Madame la Présidente. L'exposé a été très clair sur les processus, les délais, etc. J'espère que tout sera utile. Je voudrais revenir à ce qui a été mentionné par rapport aux autorités gouvernementales chargées de l'approbation des noms géographiques n'ayant pas de priorité allouée dans cette proposition. Le Royaume-Uni pense qu'ils doivent avoir une priorité, ainsi que les IDN, et qu'il faut arriver à une étape d'évaluation au niveau gouvernemental qui aille ensemble avec les procédures approuvées par l'ICANN. Nous espérons qu'ils soient éligibles pour être considérés dans les priorités et qu'ils fassent partie du premier groupe qui va être publié. Avez-vous considéré cela complètement? Et deuxièmement, pourquoi ils ne vont pas être considérés par la voie rapide? Le deuxième point que je vais mentionner, c'est lorsque les chaînes de caractères ne sont pas identiques. Toutes ces chaînes identiques seront dans la même place parce que je peux penser qu'il y aura des appels peut-être par rapport au cas où les chaînes ne seront pas identiques. Je voudrais exprimer que certaines parties prenantes du Royaume-Uni ont manifesté qu'il n'y a pas de clarté dans le processus pour résoudre le cas des chaînes qui ne sont pas identiques. Je le souligne donc comme un point de préoccupation. Les marques, notamment, ne comprennent pas exactement ce qui va se passer et ils sont préoccupés par ces chaînes qui ne sont pas identiques. Ils ont manifesté qu'ils ne comprennent pas vraiment comment ça se passe avec le processus. Et j'aimerais bien pouvoir le comprendre moi-même et puis après être en mesure de le transmettre. Et je crois que cela a trait au manque de clarté. Enfin, bon, je finis. On a peu de temps et je finis ma participation. Merci, le Royaume-Uni. Nous allons continuer avec l'ordre des orateurs. Il prend beaucoup de notes d'après ce que je vois. La Norvège a la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Kurt, de ton commentaire. Pour continuer avec la question que la Grèce a posée, à vrai dire, je n'ai pas très bien compris et peut-être pourrez-vous répondre à ma question. S'il y a plus d'un candidat, vous avez dit que l'impugnation qui n'aura pas de contrat signé avant le litige. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Vous allez résoudre ce litige ou cette dispute, et si la dispute n'est pas résolue, que va-t-il se passer? J'ai encore une autre question. Avez-vous une réaction? Il y a déjà eu des réactions dans ce sens? Merci. Kurt prend la parole. Oui, le Royaume-Uni se demande pourquoi. Si vous regardez le tableau, l'évaluation initiale, les résultats de cette évaluation sont publiés et puis on demande s'il y a des objections ou des disputes. Alors là, c'est résolu. Avec une résolution, je veux dire que le guide de candidature indique 2 jours pour résoudre les impugnations. Et puis, on établit qu'on peut négocier et arriver à un accord. Deuxièmement, si l'une des parties est un télé des communautaires, alors il peut choisir l'évaluation de priorité communautaire, ce qui se trouve aussi défini dans le guide de candidature. Et voici donc la deuxième manière de résoudre les disputes. Le dernier résultat est une enchère. En fin de compte, j'imagine qu'il y aura très peu d'enchères parce que les candidats se communiquent entre eux et nous, on leur donne la possibilité d'arriver à un accord ou sinon, on donne la priorité et troisièmement, on établit une contestation. Nous n'avons pas reçu trop de commentaires, à vrai dire. C'est le plus concret que nous avons reçu jusqu'à présent. Le Brésil a la parole. Merci de votre explication si claire, Heather. Je voudrais dire tout d'abord que le processus de priorisation est très positif. Il est positif parce que le programme de GTLD est si compliqué que si nous pouvons trouver des manières d'agir avec un groupe de candidatures sans contestation, nous pouvons aider au processus. Dans ce sens, je voudrais manifester mes remerciements pour les notes que nous avons reçues. Et là, on dit que l'une des solutions aux commentaires est de présenter certaines catégories de TLD. Dans ce sens, je voudrais continuer avec la question posée par le collègue du Royaume-Uni. Et j'aimerais mentionner une catégorie très spécifique des candidatures ayant trait aux candidatures de villes qui ont le soutien des gouvernements ou qui ont été présentés par les gouvernements eux-mêmes. Dans ce sens, je comprends bien que ce groupe de candidatures peuvent présenter moins de litiges et elles vont faire l'objet d'un certain genre de priorisation. À partir de mon point de vue, ceci est encadré dans les critères utilisés pour prioriser les IDN, c'est-à-dire l'intérêt public global. Et aussi, ils vont élargir leur portée internationale. Ma question est la suivante. Pourquoi pas? Kurt dit la politique telle qu'elle a été conçue indique qu'il n'y a pas de catégorie de TLD, sauf les TLD communautaires qui apparaissent dans le cas d'une contestation. Le personnel et le conseil regardent ça et cherchent des catégories de TLD qui ne donnent clairement un bénéfice public, OK? Si cela apparaît en premier lieu. Pour ceux qui prennent les décisions, les IDN peuvent être inclus dans cette catégorie et on peut présenter beaucoup d'arguments pour ces catégories. Les non-géographiques qui ont l'approbation des gouvernements sont une catégorie, comme par exemple la catégorie des villes, qui appartiennent à ce classement-là. Il y a un certain équilibre qui doit exister et il y a beaucoup de TLD qui sont commerciaux, ils vont être en concurrence avec d'autres TLD n'étant pas des noms géographiques, mais qui sont aussi commerciaux que les autres. Il doit donc y avoir un équilibre et le Conseil est très intéressé à entendre l'opinion du GAC. Mais j'essayais de créer un bénéfice public pour que les IDN apparaissent en premier lieu. Et cela a créé moins de conflits. Je suis d'accord qu'il doit y avoir un équilibre pour lorsque l'on établit que les uns vont avant les autres. Merci, dit Heather. L'Allemagne a la parole maintenant. Merci de votre présentation. Elle a été très intéressante. Je voudrais mentionner parler de ce que mes collègues ont mentionné, par exemple le Royaume-Uni et le Brésil. J'ai en quelque sorte une certaine sympathie pour ce qui a été dit et je me demande quel est l'impact, quel serait l'impact pour d'autres candidatures. Je crois que le retard pour d'autres candidatures, puisque l'on parle de 60 ou 80 GTLD, c'est-à-dire on peut penser à 3-4 semaines, et il va y avoir un retard si le GAC devrait donner son avis, et il y aura la priorisation pour l'autre catégorie, alors on doit penser à 4 semaines. Il faudra donc attendre. Une autre question. Franchement, je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris la réponse concernant la similarité des chaînes. Mon collègue du Royaume-Uni en a aussi parlé. Pour bien comprendre, on peut dire qu'il y a des conflits par des noms identiques et qu'il y a un malentendu par rapport à ce problème. Pour finir, une observation et une question. Premièrement, pourquoi l'ICANN a-t-elle changé sa position? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on était assis ensemble et nous avons entendu que les décisions aléatoires ne sont pas possibles. Et maintenant, nous avons une position aléatoire. Je crois qu'elle est possible et qu'elle est juste pour tout le monde, mais je me demande pourquoi l'ICANN a changé sa position. Et d'autre part, certaines régulations combinées avec ces décisions, à partir de notre perspective, c'est-à-dire cela semblerait à première vue être un peu bureaucratique. Par exemple, si les candidats doivent payer pour un tirage au sort, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont déjà payé presque 200 000 $ pour avoir le droit de participation. Et pour pouvoir présenter leur candidature, c'est aussi un peu bizarre que l'on ait le besoin d'être personnellement présent aux États-Unis pour pouvoir se présenter au tirage au sort. C'est quelque chose d'assez bureaucratique. Et je crois que, eh bien, il devrait y avoir une restriction légale pour justifier cela. Kurt Pritz prend la parole. Hubert, tu as dit ce qui est correct. Il va y avoir un certain temps pour la régulation. Eh oui, c'est bizarre. Voilà pourquoi l'idée d'un tirage au sort qui n'a pas pu être mise en place justement à cause des régulations. Et pour répondre à ta réponse et à celle de Marc, les conflits ou les contestations peuvent avoir des coïncidences ou des coïncidences pas très exactes. Lorsqu'il y a un ensemble qui a un conflit, il y a une révision automatique. Alors, au lieu d'arriver à un appel, tout ce qui est fait l'objet d'un conflit va dans un second panel pour une deuxième évaluation. Voici donc le processus que l'on fait. Je crois que le guide de candidature est assez clair, mais peut-être ce n'est pas si clair que ça. Il y a 66 noms géographiques que vous mentionnez. La présidente prend la parole. Merci. Le dernier orateur avant de clôturer la liste. L'Espagne prend la parole et puis on va remercier nos invités. L'Espagne, s'il vous plaît. Merci, dit l'Espagne. Je vais parler en espagnol. Alors, mettez vos casques, s'il vous plaît. À vrai dire, mes collègues ont dit tout ce que je pensais dire. Notamment, je remercie mon collègue de l'Allemagne parce que mes commentaires, justement, étaient dans la ligne de l'Allemagne. Dans la réunion de Prague, on a rejeté le tir à l'arc numérique parce que c'était aléatoire et les conséquences pouvaient être négatives. Et maintenant, on l'a remplacé avec un système aléatoire aussi. Et encore, il faut payer 100 $ s'il y a quelqu'un qui veut entrer dans la liste de priorité. Sinon, si on ne paie pas les 100 $, on va à la fin de la liste. Et en plus de ça, il faut venir aux États-Unis pour recueillir tout ça personnellement ou désigner un représentant, ce qui représente plus de bureaucratie encore. les noms géographiques qui ont été mentionnés, eh bien, je suis d'accord. Et je voudrais ajouter à cette suggestion le fait que les noms qui représentent des communautés et qui ne présentent aucun conflit avec d'autres candidatures puissent aussi être considérés dans un ordre de priorité. Ces candidatures personnifient l'intérêt public et l'un des objectifs du programme des nouveaux GTLD, à savoir augmenter la diversité géographique et la présence de différentes communautés au sein d'Internet. Certaines candidatures ont aussi le soutien des gouvernements respectifs. Et ça a été dur pour ces communautés de réunir la documentation, préparer les candidatures, trouver du financement des investisseurs qui mettent de l'argent, qui investissent l'argent jusqu'à ce que ce processus de GTLD finisse le plus tôt possible. Je crois que cela ne porte préjudice à personne qu'il puisse aller dans les premières places et de cette manière, on peut respecter le processus des nouveaux GTLD du fait de leur donner une certaine priorité. Merci beaucoup. Merci de vos commentaires. C'est Kurt Pritz qui parle. Il est vrai que nous comprenons l'élément bureaucratique de la proposition. Et le fait d'avoir à voyager, d'avoir des frais à payer ou d'avoir un représentant. Voilà pourquoi il y a eu tellement d'équilibre pour trouver différentes solutions possibles. Et il ne s'agit pas seulement de mesurer les différents aspects, mais nous visons à ce que la solution proposée donne beaucoup de bénéfices et peu de préjudices. Donc, nous visons à réduire ces aspects négatifs en nommant un représentant sans aucun coût. Et si nécessaire, c'est-à-dire, nous comprenons bien ce que vous venez de manifester. Nous comprenons bien, pour ce qui est de la communauté TLD et des noms géographiques, le Conseil Helicon ont présenté des propositions pour que ces IDN puissent aller en premier lieu et marquer une ligne claire établissant quels sont les bénéfices les plus importants pour l'Internet. Merci beaucoup. La présidente dit merci de cette présentation si utile. Merci Karen d'être ici aussi. Je demande des excuses pour ceux qui ont demandé la parole après la clôture des demandes d'orateurs, mais nos invités doivent assister à une autre réunion. Merci encore une fois, Dick Kurtz. Heather dit que nous allons faire une petite pause. À 3 heures, nous allons continuer avec notre ordre du jour. Merci. Pardon, à 4 heures.